On va lancer la deuxième partie de la journée, donc plus sur les partages d'expérience. Ça devrait être assez concret, peut-être très précis, et ça correspondrait pas forcément à ce que vous attendez, mais en même temps, c'est des pistes, quoi. C'est des pistes. Donc, on va commencer avec Émilie, Émilie Richard, qui vient de la BDP du Calvados, qui a un partenariat assez inédit, à ma connaissance, en tout cas. Entre département et métropole, je me trompe pas.
Communauté urbaine.
Communauté urbaine, ben voilà, je m'étais trompé. Voilà, donc je lui laisse la parole et puis l'idée c'est de rester sur ce format d'intervention pas trop longue et puis que vous interveniez parce que j'imagine qu'il y aura pas mal de questions et on enchaînera avec les autres collègues. Voilà.
Merci Fabien. Bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Richard, je suis la responsable de la bibliothèque du Calvados. Et donc, j'interviens aujourd'hui pour vous présenter un partenariat un petit peu singulier, comme l'a présenté Fabien. Donc, on a depuis 2019, donc depuis quelques années maintenant, une convention de partenariat entre la communauté urbaine de Camp-la-Mer, qui est la communauté urbaine d'importance sur le territoire, et le département du Calvados, que je représente aujourd'hui. Donc, pour vous présenter un petit peu les choses, je vais revenir d'abord sur l'historique de notre service de ressources en ligne, qui s'appelle la boîte numérique. Donc, on a créé le service en 2010 au niveau de la bibliothèque départementale. Donc, c'était vraiment une expérimentation au démarrage. On a pris quelques bibliothèques pilotes et on avait vraiment un corpus de ressources très limité à l'époque. On est monté néanmoins assez rapidement en puissance et dès 2016, on a intégré davantage de bibliothèques et notamment les municipalités d'importance sur le Calvados, donc les communes de plus de 10 000 habitants qui sont gestionnaires de leurs bibliothèques, qui ont la lecture publique comme compétence. Donc ça faisait deux villes en fait seulement hein, sur le territoire du Calvados, le restant étant des intercommunalités. Donc on avait Mondeville et Vire à l'époque qui ont intégré ce réseau. Et très rapidement, on a intégré dans nos conventions, parce qu'à chaque fois on conventionnait avec les bibliothèques partenaires, on a intégré la question d'un volet financier. Donc au démarrage, on était sur une solution entièrement gratuite. Et très rapidement, donc dès 2016, on a intégré donc un forfait à 15 centimes par habitant. Voilà, qui s'est maintenu par la suite. Donc, ce qui est assez particulier au sein des bibliothèques départementales, on a d'autres bibliothèques départementales qui ont choisi d'être sur un modèle de gratuité. Voilà. Et donc, ce volet financier, enfin, c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est qu'il a eu pour effet, donc, il a pour effet au quotidien d'être un vecteur de dialogue en fait avec les collectivités, parce que les élus voient passer ces financements. Donc que la bibliothèque soit une toute petite bibliothèque de bénévoles ou une bibliothèque plus importante, 15 centimes par habitant, c'est quand même pas énorme in fine, donc ça restait accessible et le service néanmoins était complet derrière. En 2017, on a permis l'ouverture du service à toutes les bibliothèques volontaires, donc très clairement c'était en particulier pour les toutes petites ou moyennes bibliothèques que ça s'est ouvert. Donc 15 centimes par habitant, ça a été entériné. En 2018, alors auparavant, donc 2016-2017, c'était seulement celles qu'ils souhaitaient qui pouvaient conventionner sur cette offre de ressources numériques. Et à partir de 2018, toutes nos conventions donc de lecture publique rendaient obligatoire la convention hein, sur les ressources numériques. Donc progressivement, au fur et à mesure qu'on renouvelle nos conventions de lecture publique, notre réseau propose, avec toujours ce volet financier, les ressources numériques. Donc, ça fait partie intégrante de l'offre de partenariat complet de la bibliothèque départementale. Et pour une bibliothèque sur le territoire du Calvados, ne pas proposer de ressources numériques, bah, ça devient un critère d'exclusion finalement de notre réseau départemental. Donc on a vraiment fait un choix très fort, politiquement aussi, bah, d'inscrire le numérique comme faisant partie des collections nécessaires à la constitution du réseau départemental. Et en 2019, s'est posé la question de contractualiser avec la communauté urbaine du coin, Caen-la-Mer, et sachant que Caen-la-Mer, jusque-là, proposait des ressources numériques à côté, donc avec à partir de leur portail et avec une offre parallèle. Donc on a bénéficié vraiment en 2019 d'un contexte d'opportunité assez fou, qui je pense a largement contribué au fait qu'il y a eu une sorte d'alignement des planètes qui a permis la concrétisation du projet. Donc on avait un besoin commun, on proposait chacun des ressources numériques un petit peu dans notre coin, chacun pour notre réseau. Donc on avait également, rien de le dire, un contexte politique extrêmement favorable, parce qu'il n'y avait pas d'opposition politique entre le président du département et le président de la communauté urbaine, avec beaucoup de projets qui ont été portés en parallèle, en commun par les deux collectivités. Donc on s'est inscrit dans cette dynamique commune. On avait également un gros avantage, c'est que techniquement, on avait la même architecture informatique que Caen-la-Mer, à savoir un même portail avec Archimède, géré entièrement par Archimède, et le SIGB commun avec Orphée. Donc une construction un petit peu particulière aussi, mais qui était partagée. Et parallèlement à ça, on avait le même souhait de mutualiser et de mutualiser financièrement et de mutualiser en termes de ressources humaines autour de ce service. Donc, on a très rapidement défini plusieurs enjeux de mutualisation, plusieurs enjeux à cette coopération. Donc, tout d'abord, ce que je disais précédemment, la mutualisation de l'achat. On avait une vraie logique de gestion derrière en se disant qu'on allait optimiser les deniers publics en étant plus fort et que peut-être, puisqu'on était plus important, on aurait une petite force de frappe vis-à-vis des fournisseurs. Bon, peut-être, je ne sais pas si ça s'est concrétisé par la suite. On essaye au quotidien, en tout cas c'est un argument qu'on essaye de faire valoir. On avait également un enjeu de mettre en place un partenariat stratégique et institutionnel fort. Donc c'était quand même une volonté politique d'afficher la collaboration entre les territoires et de renforcer la coopération intercommunale pour le département sur le long terme. On avait vraiment aussi, là c'était plutôt du point de vue des techniciens, un enjeu d'harmonisation de l'offre, parce qu'on avait donc plusieurs types de ressources proposées et deux réseaux parallèles qui ne proposaient pas le même type de ressources. Donc il y avait un enjeu en termes pour achalander le territoire et proposer une offre aussi diverse et variée pour chacun des réseaux. Et un enjeu aussi de lisibilité de cette offre, parce que donc il y avait plusieurs manières de procéder. Donc soit on était sur le territoire de Caen-la-Mer, mais une bibliothèque, parce que Caen-la-Mer donc a un système a pris la compétence de lecture publique pour 3 établissements intercommunaux. Par contre, toutes les municipalités qui avaient une offre de lecture publique ont gardé la gestion municipale, ce qui fait que certaines bibliothèques appartenaient, donc les bibliothèques municipales situées sur Caen-la-Mer étaient en réseau avec la bibliothèque départementale. Donc un même usager qui pouvait être à la bibliothèque, enfin adhérent à la bibliothèque intercommunale à côté de son travail, à la bibliothèque Alexis Tocqueville, pouvait avoir une carte de bibliothèque à la bibliothèque Alexis Tocqueville et rentrer chez lui dans une bibliothèque municipale, avoir une autre carte de bibliothèque qui lui permettait d'accéder aux ressources numériques du réseau départemental. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Super. Voilà. Donc ça en arrangeait peut-être certains, mais c'était pas très lisible en termes d'offres au sein d'un même territoire et à peine parfois 5 km d'écart. Voilà. Et puis je ne parle pas non plus des infrastructures informatiques derrière qui étaient totalement différentes. Et l'enjeu également, c'était de, en étant plus nombreux, en ayant un budget du coup décuplé, d'avoir un enrichissement possible de l'offre à court et plus long terme. Voilà pour les enjeux. Donc on a très vite, relativement très vite abouti sur la convention de coopération sur ce volet. Donc, qui est vraiment une convention de coopération sur le volet ressources numériques. C'est pas une stratégie du numérique sur le territoire. On est vraiment uniquement sur la gestion du portail et la mutualisation des ressources. J'insiste parce que je pense que ça a contribué à la facilitation en fait de la mise en place de la convention. Donc aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne avec ses forces et ses faiblesses, hein, on va dire. Donc on a gardé l'idée d'avoir deux accès, donc deux portes d'accès, un portail qui s'appelle toujours la boîte numérique pour le réseau départemental. Donc vous voyez la petite capture d'écran du portail actuellement, et un accès via le site internet du réseau des bibliothèques de Caen-la-Mer, sachant que Caen-la-Mer souhaitait continuer à avoir un catalogue mutualisé entre ses collections physiques et les collections de ressources numériques, ce que nous, évidemment, en tant que bibliothèque départementale, on ne peut absolument pas porter. Donc nous, notre portail, il brasse uniquement nos ressources numériques. Voilà. Et donc pas le catalogue de Caen-la-Mer. Et donc ensuite, on a un système de connecteurs qui permet aux adhérents du réseau des bibliothèques de Caen-la-Mer d'accéder, en s'identifiant sur le portail Caen-la-Mer, d'accéder ensuite à nos ressources numériques. Enfin, pardon, à nos ressources à tous, donc. Mais surtout au portail, ensuite, ça les bascule sur le portail boîte numérique. Donc on est parti sur une gestion financière répartie à 50-50. Donc on est vraiment sur une prise en charge à 50%. Ça s'explique en fait parce qu'il y a bien deux réseaux derrière. C'est-à-dire que nous, on a demandé toujours le forfait à 15 centimes par habitant pour les bibliothèques avec lesquelles on est en réseau, qui concerne donc l'ensemble du territoire du département, mais aussi les bibliothèques sur Caen-la-Mer, qui le souhaite encore, sachant que sur Caen-la-Mer, il y a une stratégie de mise en place du réseau de lecture publique qui s'est mise en place parallèlement à ça. Et dès que les bibliothèques municipales sur Caen-la-Mer souhaitent adhérer au réseau de lecture publique Caen-la-Mer, elles basculent en fait sur le portail commun de Caen-la-Mer et elles payent en parallèle les 15 centimes, non plus au département du Calvados, mais à la communauté urbaine. Est-ce que vous me suivez? Donc il y a vraiment les mêmes fonctionnements en fait sur les deux, dans les deux réseaux. Le réseau départemental qui a gardé le même type de forfait et le réseau Caen-la-Mer qui a adopté le forfait du réseau départemental lorsqu'il s'est mis en place. C'est fini après, hein. Je vous jure. Et donc, on a donc des gestions un petit peu différentes, par contre, sur la gestion des adhérents. Donc, on a mis en place, nous, donc sur notre portail, comme beaucoup d'autres bibliothèques départementales, on est vraiment sur le même fonctionnement, un compte administrateur qui permet aux bibliothèques qui adhèrent de gérer leurs adhérents, les adhérents de la boîte numérique qui sont inscrits dans leur bibliothèque. Et donc, on leur demande de vérifier que il n'y a pas besoin d'être inscrit préalablement en bibliothèque pour avoir accès à la boîte numérique. Ça, c'est un changement depuis le dernier confinement. Mais alors, une fois que... Donc, on peut s'inscrire directement sur la boîte numérique et avoir accès juste après l'inscription aux ressources, donc en quelques clics. Par contre, on peut être éjecté de la boîte numérique si, dans le mois suivant, on ne s'est pas inscrit en bibliothèque. Voilà. Et donc, c'est un peu le même système sur le portail du réseau des bibliothèques de Caen-la-Mer, parce que je crois qu'ils ont 60 jours d'accès gratuit, donc aux ressources numériques et au portail. Et ensuite, c'est le même système. Si l'inscription n'a pas été confirmée dans le réseau Caen-la-Mer dans les 60 jours, il faut refaire la démarche. Voilà. Il y a toujours la possibilité de refaire la démarche. ce que certains ont bien compris. Et donc, on fonctionne comme ça en termes de services pour le public. Et en interne, on a mis en place, et c'était aussi ça l'enjeu, donc non seulement d'avoir un outil, mais d'avoir des moyens de gestion mutualisés. Donc on a mis en place un groupe de travail sur les ressources en ligne qui va être chargé de la veille sur les ressources, de l'évaluation de ces ressources, de la mutualisation autour de la médiation potentiellement sur ces ressources. Un autre groupe de travail qui fera un petit peu la même chose, mais plus spécifiquement sur les livres numériques et le PNB, sachant que là, il y a des spécificités un petit peu, c'est-à-dire que ce groupe s'est d'abord formé pour des acquisitions mutualisées, donc de livres numériques, et puis aujourd'hui, il se recentre aussi sur la question de la médiation, justement la question des tutos sur le PNB, comment est-ce qu'on peut amener le livre numérique davantage vers les usagers et essayer d'être efficace. Voilà. Et on a donc un groupe, c'est plus un groupe de travail qu'un véritable copil, mais qui donc c'est un, on appelle le copil annuel, qui regroupe donc des représentants de bibliothèques qui ont conventionné avec le réseau Quand la Mer et avec le département sur les ressources numériques, et puis les représentants donc du département du Calvados et de Quand la Mer pour entériner toutes les questions, pas forcément stratégiques, mais les grands chamboulements en fait. C'est typiquement le copil qui va trancher sur les différents lots qui vont être proposés au sein du futur marché de ressources numériques, qui vont pouvoir, on peut trancher, essayer de se donner des directions sur les différentes difficultés techniques sur le portail, reparler du fait que c'est compliqué d'avoir deux portails avec deux accès différents, voilà. Donc c'est là qu'on aborde les questions et qu'on essaye de les trancher. Et donc on s'est réunis pour ce copil annuel, donc une fois par an, sachant que derrière, on travaille aussi avec les équipes de Quand la Mer au quotidien sur tous les petits soucis techniques qui peuvent arriver. Et donc ça se traduit formellement par une convention de partenariat qui était annuelle en 2019 et qui a été étendue à 3 ans à partir de 2020. Et donc pour toute modification, donc notamment tarifaire, on avait besoin, il faut absolument qu'on le modifie par avenant, cette convention. Donc ça nous a particulièrement impacté pendant le confinement, parce que étant donné qu'on a eu un boom de l'offre numérique, il a fallu qu'on reconfigure entièrement tous les éléments tarifaires, parce qu'il y avait une hausse du coup du forfait, des 50-50, hein. Et du coup, il a fallu absolument repasser par la case administrative et formaliser par des avenants cette question. Donc ça a pu être un petit peu lourd alors qu'il fallait qu'on réagisse très vite. Donc très, très rapidement, on a... Donc je vais très rapidement vous présenter un petit peu quels sont les résultats de cette coopération. On a eu un petit boom en 2019 qui s'explique donc très bien. Donc là on est sur les statistiques d'usage de notre portail boîte numérique, sachant que les usagers donc de Quand la Mer sont bien comptés. Hein, c'est pas parce qu'il y a un portail différent que statistiquement on n'est pas capable de les comptabiliser sur notre portail, parce qu'ils passent effectivement dans notre portail, c'est juste le système d'identification qui les rattache. Donc on a démarré petit en 2015. En 2019, donc l'année de mise en place du partenariat, on a quand même énormément augmenté. On est passé de 7500 utilisateurs à 13 000. En 2020, donc ce chiffre exceptionnel s'explique vraiment par le confinement. Par le souhait et la réalisation de ce souhait de l'ouverture de la boîte numérique à tous les Calvadosiens pendant la période de fermeture des bibliothèques et les facilités d'accès techniques qu'on a mis en place à ce moment-là et qui ont été pérennisées depuis. Et en 2021, donc ce chiffre est évidemment pas encore complètement. Enfin, ce sera pas, sans doute pas celui de l'année, effectivement. Donc on est resté quand même à 21 000 usagers. Cependant, on a effectué une migration en juin dernier, ce qui fait qu'on a peut-être quelques doublons sur les usagers inscrits, parce qu'il a fallu, enfin, je vous passe les détails techniques, mais il a fallu que les usagers se réinscrivent. Donc on peut, pour 3 semaines, on n'est pas trop sûr de la bonne gestion statistique de ceux qui se sont bien inscrits. Mais en tout cas, on n'a pas, enfin, on n'a pas de baisse, en tout cas cette année, du nombre d'utilisateurs en particulier, même si on a peut-être 500 inscrits en doublon, on reste quand même sur un chiffre assez stable. Donc on comptabilise aujourd'hui sur les quelques 130 bibliothèques sur le département. Donc 94% de bibliothèques et donc de collectivités qui adhèrent au dispositif. Donc ce qui est une couverture presque complète du territoire et qui va aller croissant puisque on a donc mis en place les conventions de lecture publique qui intègrent ce critère comme étant obligatoire. Donc on va vers le 100%. On est aujourd'hui en termes d'utilisation de ces ressources numériques par rapport au nombre d'inscrits sur le réseau. Donc là, c'est le chiffre 2020, c'est pas le chiffre 2021, à 14% d'inscrits à la bibliothèque, à la boîte numérique, par rapport au nombre total d'inscrits en bibliothèque, ce qui est plutôt un très bon chiffre. Et en termes de répartition des usagers entre nos deux réseaux, donc la répartition des usagers boîte numérique. Alors, mince, c'est pas le... on est à peu près à 48% pour Caen-la-Mer, non, pardon, à 55% pour Caen-la-Mer et du coup à 45% pour le reste du département du Calvados. Ce qui s'explique assez bien parce qu'en fait, on a énormément de lieux de lecture qui sont situés sur Caen-la-Mer. On est à peu près à 50% du nombre de lieux de lecture sur le département qui sont sur le territoire de Caen-la-Mer. Et donc une utilisation un petit peu plus importante de la part des adhérents de Caen-la-Mer. Voilà pour les quelques chiffres. Sur l'offre, donc qui va être amenée à évoluer. Donc j'ai profité de cette slide pour faire un petit bilan. De l'utilisation des ressources et de leur évolution lors du prochain marché. Parce qu'on renouvelle le marché donc à partir de janvier prochain. Donc il y a quelques changements dans la répartition des lots. Pour l'offre de cinéma, on propose l'offre d'Arte médiathèque numérique qui fonctionne très bien. Pour la presse, on est jusqu'ici avec Caféine. On a effectué un gros sourcing pour la question de la presse sur la boîte numérique, parce que Caféine donc, nous faisait des prix assez importants, donc basés très exactement sur le nombre d'inscrits sur le département et donc comprenant le nombre d'inscrits sur Caen-la-Mer également. C'était exponentiel. Donc on n'a eu aucun souci à passer sur une offre illimitée, quoi. Et donc on a effectué un sourcing assez important pour avoir quelques éléments pour bien construire notre cahier des charges et puis lors de ce sourcing, remettre les choses au clair avec notre prestataire actuel et redire les éléments qu'on souhaite se voir maintenir et puis ceux sur lesquels on était moins satisfait en tout cas. Pour les livres, donc on fonctionne via PNB. Pour la musique, on avait l'application de lecture Monkey. C'est un lot qu'on ne va pas poursuivre. C'est une ressource qui est assez extraordinaire, qui est très riche, mais qui a un fonctionnement vraiment parallèle. Il faut télécharger une application de lecture. Et en fait, pour une bibliothèque départementale, c'est pas très, donc c'est une ressource de niche. Par ailleurs, il fallait avoir des bornes pour pouvoir l'utiliser, enfin, parce que nous, on aurait pu développer des outils en prêt sur le territoire pour valoriser la ressource, sauf que chaque borne qu'on devait acheter devait être attachée seulement à un lieu. Donc on ne pouvait faire que des mots pour le département du Calvados et on ne pouvait pas prêter la borne à notre réseau. Donc ce modèle étant celui-ci et n'ayant pas de marge de négociation, voilà, c'est un lot en tout cas qu'on ne va pas réitérer. Et on propose également depuis 2 ans maintenant l'offre de la Philharmonie de Paris qui est très satisfaisante et qu'on essaye de développer en lien avec les conservatoires et écoles de musique du département. Pour la formation, on proposait 2 ressources différentes, donc Skileos pour une offre de formation généraliste et Vodéclic pour une offre de formation donc informatique. Donc ça, c'est typiquement le fruit de la mutualisation avec Quand la mère utilisait en fait Vodéclic dans le cadre de ses ateliers numériques. Donc c'était important de maintenir une offre vraiment spécifique sur l'informatique lors de la constitution de la convention. Bon, aujourd'hui, ça a évolué, ils utilisent plus le même format d'atelier et donc l'utilisation de la ressource n'est plus nécessité. Donc on va, étant donné que maintenant on a des ressources qui intègrent la formation numérique, enfin les formations informatiques, on va plutôt passer à une seule offre de formation, donc un seul lot. Pour les jeux vidéo, jusqu'ici on était avec D-Game. Je vais pas vous cacher que c'est assez peu utilisé. Voilà, et le catalogue est pas remis à jour très fréquemment. Voilà. Bon, c'est des choses qu'on a fait valoir. On va néanmoins proposer un lot jeux vidéo. Mais c'est clair, on s'est vraiment posé la question de maintenir ou pas un tel type de lot. Néanmoins, on n'a pas. Le jeu vidéo sur notre réseau départemental est assez peu développé. Ça reste encore confidentiel. Donc c'est aussi une manière pour le département et la communauté urbaine de se positionner sur une offre accessible à tous. Sur ce type de support, de domaine. On propose également depuis 2020, donc depuis le début de l'année, des livres audio. Sur le même système d'achat que pas que PNB, mais avec le même fournisseur que pour les livres numériques. On propose également depuis cette fois-ci 2020 une offre entièrement dédiée à la jeunesse avec Ma Petite Médiathèque. C'est une offre complète qui permet d'avoir des films, enfin des vidéos, des documentaires, des petits tutos de bricolage, etc. Des livres, des jeux, de la musique pour les enfants de 3 à 12 ans. Et donc ça, c'est une offre qu'on va maintenir, c'est un lot qu'on va maintenir parce qu'il est assez complet et qui permet, une fois qu'on est deux, que les parents ont mis leur enfant dessus, c'est assez simple de naviguer. Voilà. Dans le cadre de notre partenariat, juste avant de passer à la journée pro, etc., qu'on organise, on va également ajouter un nouveau lot. Vise à développer les livres, notamment accessibles aux personnes en situation de dyslexie, dysorthographie, etc. Donc on va faire un lieu spécifique là-dessus. Bon, je vais être courte. Oui, je vais juste passer très très vite sur les petits projets en cours. On a un portail qui est un petit peu vieillissant, donc l'enjeu, on a été inscrit en tant que bibliothèque numérique de référence cette année, et donc tout le projet est de faire un audit sur l'accessibilité du site, revoir son ergonomie, et avoir un accès un petit peu plus direct aux ressources si c'est possible. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours. Il y a un autre chantier avec la communauté urbaine, c'est de renforcer notre coopération, donc passer de ce que j'appelle la coopération de gestion à une coopération de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment tout axé sur la mutualisation des ressources, sur la mise en place de groupes de travail. Aujourd'hui, il faut qu'on mette en place des projets communs pour relancer la machine et faire en sorte qu'on puisse continuer à évoluer ensemble. On va se structurer également administrativement, donc ça, ce sera en cours à partir du nouveau marché avec une convention de groupement de commandes. Jusqu'ici, en fait, on avait une structuration administrative assez particulière parce que on émettait un titre de recette, donc de 50% de la somme, et donc le département émettait le titre de recette pour quand la mère qui nous reversait à la fin de l'année 50% de la somme. Donc ça faisait une somme énorme en fait pour le département à avancer, sachant que les ressources, on les paye au démarrage de l'année. Donc là, ça va être rendu plus stable avec la convention de groupement de commandes. Et on a mis en place aussi un SAV au cours du confinement et davantage d'outils de collaboration dans le réseau, avec notamment la mise en place d'un blog à destination des bibliothécaires du réseau pour bien communiquer autour de ces ressources. Et donc, toute cette coopération numérique s'inscrit aussi dans d'autres types de coopération, donc la structuration de nos deux réseaux avec des services parallèles, des conventions également qui pourraient voir le jour sur notre label Première Page, sachant qu'on est tous les deux labellisés, département du Calvados et communauté urbaine Caen la Mer. Et pourquoi pas la formalisation d'une stratégie culturelle avec, on a des contrats de développement culturel dans le département, et donc une contractualisation qui pourrait voir le jour dans les prochaines années. Merci.
Une petite question rapidement sur les livres audio. Est-ce que vous avez un retour positif? Comment ça se passe? Vous passez, vous avez dit, avec comme pour les livres numériques?
On passe par deux titres. Et alors, pour l'instant, on a un bon taux d'utilisation. Parce que pourquoi est-ce qu'on est passé sur des livres audio? C'est parce que c'était pas du PNB, donc c'était du téléchargement. Enfin, c'était pas du téléchargement, c'est du streaming, pardon. Donc c'était facilitant. Là, on a un gros souci en fait avec les livres audio parce que les prix ont augmenté depuis le milieu de l'année. Donc on est passé du simple au double. Donc clairement, le budget qu'on s'était fixé donc à deux avec la communauté urbaine ne va pas être suffisant pour poursuivre l'expérimentation. Donc là, on n'est pas sûr de poursuivre à la fin de l'année. Mais ça marche, oui.
Juste pour info, par rapport à PNB et les livres audio, l'application Baobab est en train de faire un développement. Bientôt, vous pourrez télécharger les livres audio dedans. Voilà, donc ce qui peut être un plus aussi pour les usagers. Voilà.
Top.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre projet de médiation sur PNB ? Vous êtes passé un petit peu vite dessus.
On en est vraiment aux prémices. C'est-à-dire que ce groupe de travail était vraiment à la base basé sur l'acquisition donc des livres numériques. Donc on était sur une sorte de comité d'acquisition. Là, on est en train de renforcer les compétences des personnes donc, qui viennent des deux réseaux, hein, qui sont des bibliothécaires sur chacun des réseaux, pour développer leurs compétences sur l'accompagnement et la médiation autour du téléchargement des livres numériques, pour que ce soit un réseau de référents qui soit bien informé et qui puisse servir de support dans leur structure d'attache dans la médiation autour de du livre numérique. Mais donc c'est pas très innovant, voilà.
Je voulais vous demander pour les ressources jeunesse. Est-ce que vous rencontrez pas des difficultés pour avoir des inscriptions d'enfants entre 3 et 12 ans qui n'ont pas d'email, etc. Nous, dans notre réseau, c'est très difficile de faire venir les enfants, en fait. Ou alors, est-ce qu'ils empruntent via le compte de leurs parents, ce qui pose des problèmes de statistiques, on ne sait pas qui a emprunté quoi, etc.
Alors, on n'a pas... Alors, j'ai pas connaissance de retour, en tout cas, au niveau du SAV, donc de notre service à distance. On n'a pas eu de questions, à ma connaissance, spécifiques sur les difficultés d'inscription. Pour moi, les enfants s'inscrivent via leur... Enfin, c'est les parents qui inscrivent... Enfin, qui mettent les... Je pense même pas qu'ils inscrivent leurs enfants. Hein. Ils mettent leurs enfants devant... La ressource, en particulier pendant le confinement, via leur compte. Donc on n'a pas de statistiques spécifiques sur l'âge pour le coup, et on ne peut pas vérifier si l'utilisation de la petite médiathèque est vraiment une utilisation par des enfants. Et on rencontre exactement les mêmes soucis qui étaient évoqués ce matin le fait d'avoir des statistiques qu'on va pouvoir croiser avec d'autres données que ce qui sont celles du réseau de lecture publique. Et on a vraiment très peu de ressources qui nous offrent des statistiques d'utilisation complète. Alors même qu'on l'inscrit dans notre cahier des charges.
Oui, bonjour, Aurore Marty, Bibliothèque d'Amiens Métropole. Donc moi, je suis l'autre volet, c'est-à-dire qu'on a été approché par la BDP de notre département pour mettre en place justement un même portail. Donc j'ai été très attentive à tout ce que vous avez indiqué. Donc je voulais juste savoir s'il y avait des points de vigilance pour la mise en place, parce qu'on réfléchit, on est nous assez craintifs. Donc on se demandait, nous en tant que bibliothèque, si on devait garder, mettons, le PNB à part, ou si... Vraiment, c'était du 50-50 sur toutes les ressources.
Je pense que la force qui est la nôtre, c'est qu'on a vraiment été jusqu'au bout de la mutualisation. Donc c'est très lisible, en fait, pour les... Enfin, c'est très lisible en termes d'offres. Ça l'est un peu moins sur le cheminement pour l'accès, pour les usagers. Je pense que le point de vigilance, c'est vraiment de prévoir les temps de travail en commun, pour que ça reste un projet porté à deux et qu'on puisse continuer à être dans le développement de projet, même une fois que le service est mis en place et qu'a priori on a plus, enfin, on est sur du courant. Voilà. Le courant, ça se gère. On l'a bien vu avec la crise sanitaire. Les ressources numériques, c'est pas une fois qu'on a payé l'abonnement qu'on est tranquille. En fait, derrière, il y a vraiment plein de projets à mener. Et donc là, on a vraiment un enjeu d'enrichissement mutuel. Nous, en tant que bibliothèque départementale, on n'est pas du tout spécialiste de la médiation. On va être de très bons gestionnaires, on va être bons en back-office, et ce sera notre force, mais tous les apports en termes de médiation, vous pouvez vraiment nous... Enfin, en tant que métropole, vous pouvez vraiment nous faire remonter vos expériences de terrain et du coup enrichir derrière les expériences de notre réseau.
Après, c'était plus au niveau justement de la facturation, parce que vous évoquiez cette histoire d'avancer les frais. Nous, on est sur un principe où on paie à la fin de l'année. Après, on en est encore au stade des discussions, donc on ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est chacun de notre côté en se disant, effectivement, ça a été une volonté politique de mutualiser. Est-ce que dans les faits, ce sera donnant-donnant pour les deux parties? On verra.
Sur la question financière, donc oui, c'était un montage un petit peu singulier, celui qu'on a eu. Donc on a eu des difficultés en fait au moment du confinement, quand il a fallu racheter des films sur médiathèque numérique, et que évidemment on n'avait pas prévu ça en termes budgétaires au démarrage de l'année. Donc on l'avait pas mis dans notre convention, donc il a fallu refaire un avenant, et donc il a fallu que la bibliothèque départementale donc avance les frais pour payer les ressources et pour empêcher la rupture de service, voilà, très clairement. C'était un petit peu singulier, voilà. En termes de, on a quand même une crise sanitaire au milieu, ce qui est un événement qui, j'espère, ne sera pas régulier. Notre système a pêché à ce moment-là, en fonction de, par rapport à toutes ces raisons-là. La difficulté du groupement de commandes, c'est que c'est une procédure un peu lourde à mettre en place. Donc peut-être que pour une première année d'exercice, ça peut être bien de passer par ce premier système financier et ensuite de se réatteler à ce nouveau projet de passation en groupement de commandes.
Oui, bonjour, Stéphane Joseph de la Bibliothèque départementale de la Vienne. Moi, je voulais vous poser une question un peu plus technique sur le partage des fonds PNB entre deux collectivités qui avaient déjà, je pense, au préalable, commencé à constituer des collections séparément. Techniquement, là, comment vous avez géré ça?
Alors, techniquement, je ne peux pas vous répondre vraiment sur le fond, sur la manière dont c'était géré en fait, parce qu'on avait au démarrage de la convention, donc sur 2 ans, on a fonctionné avec, donc, parce que c'était intégré à notre marché de livres, donc on avait 2 fournisseurs différents, donc en fait on avait scindé l'année en 2 et on acquérait 6 mois de l'année d'un côté et les 6 mois de l'autre avec l'autre sur l'autre marché.
Mais pour l'accès des collections PNB acquises antérieurement par Quand la mer, les usagers de la boîte numérique n'y ont pas accès, si?
Alors, si, on s'était assuré qu'elles avaient bien accès. Hein.
Ouais. D'accord. Le fonds est mutualisable sur les deux portails.
Oui. On avait, je crois, basculé tout sur la boîte numérique, et sachant que derrière, on avait fait le lien avec le portail Quand la mer.
D'accord.
Après, je peux vous mettre en contact avec la personne qui s'est vraiment chargée de techniquement de tous ces, enfin, du cahier des charges, etc. Si ça vous intéresse.
Entendu, merci.